pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Voici Désirée, joueuse de basketball en fauteuil roulant. Un texte de Lisiane Alexandre, paru le 21 mai 2024 sur le site Les As de l'info. Récemment, la néo-brunswickoise Désirée Isaac Pictou a appris une grande nouvelle. À la fin de l'été, elle participera aux Jeux paralympiques de Paris avec l'équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant. Découvre cette athlète autochtone inspirante. Désirée Isaac Pictou est membre de la Première Nation Oogpiganjig, qui fait partie du peuple Mi'kmaq. Désirée et sa communauté vivent au nord du Nouveau-Brunswick. Sportive dans l'âme, le basketball a toujours fait partie de la vie de Désirée. Adolescente, elle a représenté sa province deux fois aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. C'est un grand rassemblement sportif et culturel destiné aux jeunes athlètes autochtones de tout le continent. Un grave accident. Mais en août 2020, la vie de Désirée bascule. Alors qu'elle assistait à une course automobile, un véhicule a quitté le parcours et l'a frappée. Diagnostic : fracture multiple. Il faut amputer ses deux jambes. La jeune Mi'kmaq est inquiète. Comment pourrait-elle rester active? Heureusement, lors de sa réadaptation, elle découvre le monde du parasport, c'est-à-dire les sports pratiqués par les personnes en situation de handicap. Coup de cœur, sans surprise, c'est le basketball en fauteuil roulant qui a charmé Désirée. Sa détermination et son attitude positive lui ont permis d'apprendre son nouveau sport très rapidement. Dès 2022, elle pratique ce sport à un niveau compétitif. En 2023, Désirée est sélectionnée pour représenter le Canada lors des Jeux panaméricains, une grande compétition sportive destinée aux athlètes handicapés. Et victoire! L'équipe de Désirée décroche la médaille d'argent. En route vers Paris. En avril, Désirée et son équipe ont réussi à se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris. Ce sont des compétitions similaires aux Olympiques, mais où s'affrontent des athlètes handicapés de haut niveau. Ceux-ci auront lieu quelques jours après les Jeux olympiques, du 28 août au 8 septembre. En tout, 4400 athlètes participeront. Parmi les 22 sports qui y seront représentés, on pourra entre autres voir du paratir à l'arc, du parajudo, du rugby fauteuil et de la para-équitation. Et toi, connais-tu des sports adaptés aux personnes en situation de handicap? Lesquels? Pour ou contre, laisser les pissenlits tranquilles? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 21 mai 2024 sur le site Les As de l'info. C'est le printemps. Les oiseaux chantent, les arbres verdissent et ça sent bon le lilas. Si la plupart des gens se réjouissent de voir la nature renaître, il y en a pour qui l'arrivée du beau temps est synonyme de chasse aux pissenlits. Cette mauvaise herbe divise. Certains veulent carrément l'éliminer. D'autres nous supplient de la laisser pousser afin d'aider les abeilles. Il y a même le défi pissenlit qui invite les gens à ne pas tondre leur pelouse tout le mois de mai. Tu en penses quoi, toi? Avant de répondre, regardons ensemble les arguments pour et les arguments contre. Les arguments pour: de la nourriture pour les abeilles. Les pissenlits sont parmi les premières fleurs à éclore au printemps. Ils sont donc une source d'énergie bienvenue pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs qui s'activent après l'hiver. Et, comme il y en a beaucoup, les insectes n'ont pas à s'épuiser pour en trouver. C'est bon pour la nature. Une pelouse uniforme et verte comme un terrain de golf, ça n'existe pas dans la nature. Pour y arriver, il faut utiliser des engrais chimiques et des herbicides qui empoisonnent les insectes, les animaux et l'eau. Alors, disons bye-bye aux poissons et accueillons les mauvaises herbes qui favorisent la biodiversité. On sauve du temps. Faire la chasse aux pissenlits, ce n'est pas simple. Ils sont très robustes et difficiles à arracher. C'est une corvée sans fin, puisqu'ils repoussent rapidement. Pourquoi ne pas plutôt prendre ce temps pour embellir des plates-bandes ou cultiver un potager? Les arguments contre. C'est laid et envahissant. Les pissenlits ne sont pas parmi les plus belles fleurs. Et quand on les laisse aller, ils finissent par littéralement envahir le terrain en étouffant les autres plantes. Il y a d'autres moyens d'aider les abeilles. Il n'y a pas que les pissenlits qui aident les abeilles. On peut très bien tondre sa pelouse et aider les insectes. On n'a qu'à planter des arbres fruitiers ou aménager des plates-bandes fleuries sur notre terrain. Les insectes y trouveront leur compte. On a le droit de faire ce qu'on veut sur notre terrain. À chacun ses goûts et ses envies. Si des gens n'aiment pas les pissenlits, ils ont le droit de les arracher. Ils sont chez eux, après tout. Les villes peuvent, elles, donner l'exemple et décider de ne pas tondre les pelouses de leur parc. Toi, es-tu pour ou contre laisser les pissenlits tranquilles? Le cadran sonne plus tôt pour des élèves en Colombie-Britannique. Un texte de Clémence Tessier, paru le 20 mai 2024 sur le site Les As de l'Info. Comment réagirais-tu si, du jour au lendemain, on t'annonçait que tes journées d'école allaient être prolongées? C'est ce qui est arrivé à des milliers d'étudiants du secondaire de la région de Surrey, en Colombie-Britannique. La raison de ce changement d'horaire? Il y a trop d'élèves dans les classes. On t'en dit plus ici. Des écoles surpeuplées. À Surrey, le nombre de nouveaux élèves qui arrivent chaque année dans les écoles secondaires a triplé au cours des deux dernières années, passant de 800 à 2400. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas assez de classes pour accueillir tout le monde. Toutes les écoles du secteur comptent trop d'élèves, sauf deux d'entre elles. La commission scolaire de Surrey déplore que le gouvernement de la province ne lui fournisse pas de nouvelles écoles. Selon elle, c'est la raison pour laquelle elle manque d'espace. Le problème, c'est que les écoles ne peuvent pas refuser des élèves sous prétexte qu'elles ne peuvent pas leur faire de place. Alors, certaines écoles créent des salles de classe mobiles. Ce sont des locaux qui sont aménagés comme des salles de classe, mais qui ne le sont pas vraiment. Malheureusement, ce n'est qu'une réponse temporaire à un problème qui semble être là pour rester. Des journées prolongées. La solution qu'a trouvée la commission scolaire de Surrey est un peu surprenante. Allonger les journées d'école pour permettre à tous les élèves de suivre leurs cours dans de vraies salles de classe. Comment ça fonctionne? Je t'explique. Chaque jour, un étudiant assiste à quatre cours ou périodes. La solution proposée par la commission scolaire de Surrey, diviser la journée en cinq périodes. Les élèves qui auront été assignés aux périodes 1 à 4 commenceront leur journée plus tôt et partiront plus tôt. Ça veut aussi dire que le réveil sonnera aussi bien plus tôt. Aïe! Ceux qui auront les périodes 2 à 5 arriveront et partiront plus tard. De cette façon, tous les élèves ne seront pas à l'école en même temps. Il y aura donc plus de place dans les salles de classe. Une solution un peu complexe. D'ici septembre, au moins 5 des 21 écoles secondaires publiques de Surrey verront donc leurs horaires modifiés. Cette solution n'est pas idéale pour tout le monde. Certains élèves pourraient se retrouver avec des horaires qui ne concordent pas avec ceux de leurs amis. Aussi, deux élèves de la même famille pourraient avoir un horaire contraire, ce qui pourrait rendre l'organisation de la famille un peu compliquée. La commission scolaire de Surrey espère tout de même que cette décision va améliorer les conditions d'enseignement des élèves du secondaire. Toi, quel serait ton horaire d'école idéal? Rencontre surprenante avec un cougar au Manitoba. Un texte de Clémence Tessier, paru le 18 mai 2024 sur le site Les As de l'Info. Au début du mois de mars, un chasseur du Manitoba a eu toute une surprise en voyant l'animal qui s'est retrouvé dans un de ses pièges, un cougar. Cette situation est exceptionnelle, car elle va permettre aux experts d'en apprendre plus sur ce mystérieux félin. Sauf qui peut. William Watkins, un expert de la faune du Manitoba, nous explique que les cougars étaient présents bien avant les humains dans la province, jusqu'à ce que ce gros félin soit obligé de fuir. Au début des années 1800, on a commencé à chasser et à persécuter les cougars, qui sont des animaux assez peureux. Résultat, le Manitoba a perdu sa population de cougars, raconte-t-il. Ce n'est qu'au début des années 2000 que les félins ont commencé à revenir sur le territoire. Des félins timides. Malgré tout, il est très rare d'apercevoir un cougar au Manitoba. Pourquoi? Premièrement, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Deuxièmement, les cougars préfèrent éviter les humains, alors ils se tiennent dans les régions les plus éloignées de la province, explique William Watkins. Une découverte qui change tout. Puisque le cougar aime se cacher, les experts qui étudient sa présence au Manitoba ont bien des difficultés à recueillir des informations à son sujet. Mais cette situation pourrait changer grâce à la récente trouvaille du chasseur. Nos scientifiques ont pu lui poser un collier radio qui nous transmettra des informations sur ses déplacements et l'endroit où il vit. C'est ce qui rend la situation exceptionnellement excitante, s'enthousiasme William Atkins. Doit-on avoir peur des cougars? Pas plus que des ours ou des coyotes, explique l'expert. La plupart du temps, le cougar va avoir peur et s'enfuir devant un humain. Si ce n'est pas le cas, il faut rester calme et partir doucement vers un endroit sûr, comme une voiture ou un abri. Il ajoute à la blague, « Si vous voyez un cougar, soyez très heureux parce que vous faites partie du très petit groupe de personnes chanceuses au Manitoba qui en ont aperçu. Toi, t'es-il déjà arrivé de voir un animal sauvage par hasard? » Non, s'empoisonner avec du venin de grenouille n'est pas une bonne idée. Un texte de Camille Lopez, paru le 16 mai 2024 sur le site Les As de l'Info. As-tu déjà entendu parler du cambo? C'est le nom donné à une pratique de plus en plus populaire qui pourrait être dangereuse. Ça consiste à déposer sur ses blessures du venin de grenouille exotique. Oui, tu as bien lu. Au Québec, des cérémonies secrètes de cambo sont même organisées. Mais ce phénomène inquiète les médecins. Voici ce que tu dois savoir sur cette histoire farfelue. Hein? Du venin? Cambo, c'est le nom du venin en question. Il est produit par une grenouille vert fluo qu'on retrouve en Amazonie. La rainette singe. Elle l'utilise pour se protéger de ses prédateurs. Du venin, c'est du poison. Alors quand nous, les humains, on en consomme, ça nous fait vomir et ça nous fait aller aux toilettes très, très souvent. Je t'épargne les détails un peu dégoûtants. Bref, ça cause une intoxication. S'empoisonner volontairement. Certains adultes pensent qu'il faut se purifier le corps pour être en bonne santé. Ils cherchent en quelque sorte à se nettoyer. C'est une croyance qui ne repose sur rien de scientifique, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Se nettoyer, c'est donc le but des cérémonies de Kambo. Ce sont des événements où les participants s'empoisonnent au venin de grenouille. Pour ce faire, ils se brûlent légèrement la peau et appliquent ensuite le venin sur la blessure fraîche. Tout ça dans le but de se faire vomir et d'aller aux toilettes. Ils se font dire par les organisateurs de ces cérémonies que ces réactions nettoient le corps. Attention, danger. Au Canada, tous les traitements de santé sont contrôlés par l'organisme Santé Canada. Or, le Kambo ne fait pas partie de sa liste de substances autorisées. Il est donc illégal d'en vendre ou d'en faire la promotion. Les médecins québécois déconseillent la consommation de ce venin. Pourquoi? Il peut rendre gravement malade ou causer la mort. Par exemple, deux personnes sont décédées en Australie en 2019 et en 2021 après avoir participé à l'une de ces cérémonies. C'est donc pas seulement désagréable, c'est aussi très dangereux. D'ailleurs, est-ce qu'on peut réellement nettoyer l'intérieur de son corps? Non, disent les médecins, ça ne sert à rien et, comme tu peux le voir, ça peut faire tout le contraire de l'effet espéré. Nous faire mal. Des cérémonies secrètes? Pour en savoir plus sur ce phénomène, nos amis journalistes de la Tribune ont créé un personnage, Alice. Ils ont fait semblant qu'elle était intéressée par ce poison. Grâce à cette fausse identité, nos collègues ont appris que des cérémonies de Kambo sont organisées en Estrie au Québec. Qu'est-ce qui est vendu? Des séjours, appelés retraites, de 3 à 5 jours où plusieurs séances de Kambo ont lieu. Le prix? 1 500 $ à 1 700 $. Les autorités médicales de la région surveillent ces retraites. Mais c'est difficile parce qu'elles sont tenues secrètement. Elles ne sont annoncées que sur les réseaux sociaux. Le lieu exact n'est révélé aux participants que quelques jours avant la cérémonie. Autre danger, les organisateurs demandent aux participants d'arrêter de prendre leurs médicaments 2 semaines avant les cérémonies. Mais ça peut entraîner de graves conséquences sur la santé, avertissent les médecins. Ça en fait des mauvaises idées. Ça prouve qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet et surtout, pour tout ce qui concerne notre santé, qu'il vaut mieux demander conseil à un médecin. Et toi, as-tu des astuces pour repérer les mauvais conseils? Entrevue. Elle chasse les aurores boréales. Un texte d'Émeric Épeau, paru le 16 mai 2024 sur le site Les As de l'Info. Début mai, tu as peut-être eu la chance d'apercevoir des aurores boréales près de chez toi parce qu'elles étaient très visibles un peu partout au Québec. Ariane Aubert-Bonne est journaliste pour le journal La Tribune, mais en dehors de son travail, Ariane aime chasser les aurores boréales. Elle a toujours été passionnée par ce qui se passe dans le ciel. J'ai pu lui poser quelques questions. Enfant, Ariane a grandi dans une famille très sensible à tout ce qui se passait au-dessus d'eux, dans le ciel. Son papa a beaucoup de connaissances sur le ciel et les étoiles. Il lui a justement transmis cette curiosité et cet intérêt. D'ailleurs, Ariane m'a dit que ses parents ont décidé de l'appeler ainsi pour le programme de fusée européenne, Ariane. Une chasseuse d'aurores boréales, ça fait quoi? Je dirais plus que je suis une chasseuse amatrice. C'est vraiment pour mon plaisir. En fait, je regarde sur Internet les données géomagnétiques. C'est un peu comme une application pour la météo, mais pour les aurores boréales. J'analyse tout ça, et quand les probabilités de voir des aurores boréales sont élevées, je me prépare, et le soir, je sors pour aller observer le ciel et prendre des photos. Est-ce qu'il y a une technique pour mieux voir les aurores boréales? Oui, car les aurores boréales sont très difficiles à observer. Il faut d'abord s'assurer que les conditions sont bonnes. Comme je le disais, il existe beaucoup d'applications qui peuvent nous aider pour ça. Il faut ensuite essayer de trouver un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse parce qu'un simple lampadaire peut nous empêcher de voir une aurore boréale. Une autre chose qui est importante, c'est de regarder vers le nord. Souvent, les aurores boréales se forment au-dessus des pôles, donc vers l'hémisphère nord. Ariane m'a aussi dit quelque chose que je ne savais pas. Pour bien observer une aurore boréale, il faut habituer nos yeux à l'obscurité. C'est important de rester dans le noir pendant au moins 10 à 15 minutes et de ne pas regarder d'écran ou d'autres sources lumineuses. C'est parce que même si les aurores boréales dégagent beaucoup de couleurs, elles sont très peu lumineuses. Alors, si on habitue nos yeux à l'obscurité, notre œil pourra mieux les distinguer dans le ciel. Quel est ton plus beau souvenir de chasse? Je dirais le 10 mai dernier, parce que les aurores étaient beaucoup plus basses que d'habitude et elles sont descendues très au sud. C'est rare. Ça a fait en sorte que, peu importe où on regardait dans le ciel, il y en avait partout autour de nous. C'était vraiment magnifique. En plus, ce jour-là, c'était une tempête magnétique exceptionnellement forte. Alors, on pouvait les voir même si on était en ville. Pour finir, des questions en rafale. Ta couleur préférée dans une aurore boréale? Le magenta. As-tu une idée de combien d'aurores boréales tu as vues jusqu'à présent? Bonne question. Je pense que j'ai dû en voir quelques centaines. Ta matière préférée à l'école? Ça a toujours été le français. C'est pour ça que je suis devenu journaliste. As-tu des animaux de compagnie? Si oui, lesquels? Oh oui, j'en ai beaucoup. J'ai 2 chiens, 3 chats, 1 perruche et 2 chevaux. Minecraft en 5 chiffres. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 17 mai 2024 sur le site Les As de l'Info. Le jeu vidéo Minecraft fête ses 15 ans. La popularité de cet univers cubique de création, qu'on peut comparer à des Lego virtuels, ne diminue pas. Le jeu bat même des records. Et ce ne sont pas que les jeunes qui en sont des adeptes. Minecraft est utilisé par des enseignants, des programmeurs, des artistes, des psychologues. Voici 5 chiffres pour résumer ce succès colossal. 15. C'est l'âge de ce jeu où la créativité n'a pas de limite. Minecraft a été lancé le 17 mai 2009 par la compagnie Mojang. On appelle « bac à sable » ce genre d'univers où la construction et la création sont complètement libres. Dans Minecraft, on se sert des ressources naturelles pour construire son monde. On peut y jouer seul ou avec d'autres joueurs. 300 millions. C'est le nombre de copies de Minecraft vendues dans le monde depuis 2009. C'est un record qui a été établi en septembre 2023. Cela fait de Minecraft le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. 34. On retrouverait actuellement 34 types de créatures hostiles dans Minecraft. Ces animaux agressifs sont les ennemis des joueurs et ne se gênent pas pour les attaquer. Les plus célèbres sont les Creepers. Ils sont aussi vieux que le jeu et auraient été créés par erreur. Les Creepers sont devenus de véritables icônes. 2014. C'est l'année où la compagnie Microsoft a acheté Minecraft à Mojang pour 3,4 milliards de dollars canadiens. Microsoft a permis au jeu de se développer encore plus et de gagner en popularité. Le jeu est maintenant disponible dans plus de 130 langues. Symbole de l'infini. Ce n'est pas le chiffre 8 qui fait une sieste. C'est le symbole de l'infini. Et il représente bien l'univers de Minecraft qui semble ne pas avoir de limites. Les différentes utilités du jeu semblent elles aussi infinies. Une version pour l'école, Minecraft Education, est utilisée par des milliers d'enseignants dans le monde pour enseigner les mathématiques, l'histoire, la programmation, les sciences, etc. Des psychologues de la province de la Colombie-Britannique au Canada s'en servent pour aider des enfants qui vivent un deuil. Toujours en Colombie-Britannique, une nation autochtone, un conseil scolaire et Microsoft ont travaillé ensemble pour développer une version du jeu qui fait découvrir des cultures autochtones. On pourrait aussi parler de l'art créé avec Minecraft, des bâtiments historiques recréés en blocs qu'on peut visiter et de plein d'autres choses encore. Toi, joues-tu à Minecraft? Quelle est ta création dont tu es le plus fier?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.